Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour. Une émission aujourd'hui sur la parution dans une traduction française de l'ouvrage intitulé « L'esprit, l'âme et le corps » de Saint-Luc de Crimée, né en 1877 à Kertch, en Crimée, et mort, toujours en Crimée donc, à Simferopol en 1961, un évêque chirurgien qui, dans cet essai, interroge la raison humaine. Foi et science sont-elles compatibles? Une grande question à laquelle la science contemporaine peut apporter des réponses qui éclairent l'approche de ce médecin de grande renommée à son époque, dont la sainteté est reconnue officiellement dans un premier temps en 1995 par l'Église d'Ukraine. Puis en 2000, il est déclaré néo-martyr et confesseur de la foi par l'Église de Russie. La traduction française de cet ouvrage est due à Anne Davidenkoff avec la collaboration de Pierre Vanov. La préface est signée par l'archiprêtre Jean Breck, spécialiste de bioéthique, et l'avant-propos par Jean Becchio, médecin spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs, qui est avec nous pour en parler. Jean Becchio, bonjour.
Bonjour.
Alors, la lecture du texte de Saint-Luc de Simferopol exige bien sûr l'éclairage d'un spécialiste. Avant tout, pourquoi avez-vous collaboré à un livre qui, a priori, n'est pas de votre spécialité?
Par amitié pour Annika Davidenkoff, qui devait être ici, qui n'a pas pu venir. Elle s'en excuse. Je vais essayer de la remplacer de mon mieux. Elle m'a proposé de lire cet ouvrage. Et j'ai été vraiment séduit par l'écriture de ce saint. Au départ, je pensais lire le livre d'un saint, qui en fait est un collègue chirurgien, qui a passé sa vie à vraiment réaliser son rêve, être médecin, et un médecin auprès des humbles et des pauvres, et aussi développer sa spiritualité en devenant prêtre et ensuite évêque.
Écoutez, si vous voulez bien, on va commencer quand même par donner quelques éléments biographiques, parce que c'est toujours bon de se retrouver dans cette époque très troublée au plan politique. Et puis, c'est une vie également qui est marquée par les événements politiques de la vie, et une double vie, je veux dire, parce que c'est un médecin, et en même temps, il va devenir prêtre et évêque.
Tout à fait. Le petit Valentin, car avant de prendre le nom de Luc pour son sacerdotat, il se prénommait Valentin, est un petit bébé qui naît en 1877 et qui naît dans la ville de Kertch, devenue célèbre depuis quelques jours, puisque le pont de Kertch occupe l'actualité sur toutes les ondes. Et c'est un symbole, ce pont qui relie l'Ukraine et la Russie. Et bien, c'est là que naît ce petit bébé, d'un papa polonais, d'une maman russe. Et la famille va rapidement s'installer à Kiev, où le papa est pharmacien. Et là, le fiston grandit. À l'âge de 18 ans, il commence à entreprendre des études aux Beaux-Arts. Et puis, il suit sa vocation. Il veut être médecin. Il veut être médecin de campagne. Et donc, il suit des études. Et en 1903, ça y est, il est médecin. Et là, se déclare la guerre entre la Russie et le Japon. Il est envoyé au combat, disons. Et au combat, il ne s'attendait pas à ce qu'on le propulse comme médecin-chef d'une unité de chirurgie. Et là, ses mains vont devenir magiques et il devient le grand chirurgien qu'il sera jusqu'à la fin de sa vie en 1961. Il fait cette campagne en 1903, donc en 1904, il épouse une infirmière qui travaille avec lui et ensuite la guerre se termine et pendant 3 ans, il va avoir des affectations de médecin généraliste dans le centre de la Russie. Ça sera une période de bonheur. Ils vont avoir 4 enfants, ce couple merveilleux. Et puis, sa femme va être victime de la maladie terrible de l'époque qui est la tuberculose. Et pour traiter la tuberculose, on disait qu'il fallait un climat sec et sain. Et là, il est envoyé à Tachkent, donc dans le sud-est de la Russie, où on le nomme médecin-chef de la chirurgie aussi, de ce grand hôpital du sud-est de la Russie. Il va connaître vraiment des années de bonheur jusqu'à ce que arrive l'année 1919 où son épouse s'éteint, emportée par la tuberculose. Là, il va se rapprocher de l'Église, sans doute, il y était déjà. Il va lire la Bible plus profondément, il se sent attiré par le sacerdotat et il fait des études accélérées de prêtrise. Et un an après, en 1921, il est ordonné prêtre. Un fait remarquable, à partir du jour où il est ordonné prêtre, il continue la chirurgie, bien sûr, il continue la chirurgie en gardant sa soutane sous le tablier stérilisé d'infirmier. Et en plus, lorsqu'il commence à ouvrir un patient, que ce soit le ventre ou le thorax, il fait un signe de la croix avec un tampon iodé sur la croix orthodoxe, bien sûr, avant d'ouvrir le patient. Il reste à Tachkent pendant quelques temps, c'est sa résurrection. Il va, au bout de 3 ans, être nommé évêque. Je ne vais pas raconter l'épisode. Et ensuite, et là c'est l'année terrible où le bolchevisme vraiment est à son comble, et on lui demande de quitter sa foi s'il veut continuer à occuper ses fonctions de chirurgien. Il refuse, eh bien on l'envoie bien sûr au goulag, et il va connaître 3 années donc de goulag dans le nord, la nord-est de la Russie, à 250 km du cercle polaire. Il va continuer à effectuer son travail de chirurgien là-bas, auprès des personnes souffrantes. Au bout de 3 ans, il va être rappelé pour soigner des notables de la nomenclatura. Et puis, 10 ans après, il est renvoyé 3 ans au goulag. Et puis, il est rappelé. Et il connaîtra comme cela 3 séjours au goulag, jusqu'à ce qu'il revienne en 43, à la fin de la guerre, où là, vraiment, il rend des grands services sur le front contre l'armée allemande. Et là, il va être réhabilité, disons. Enfin, il va être toujours surveillé, mais on ne l'enverra plus au goulag. Il va être nommé évêque dans une ville du sud-est de la Russie, Krasnoyarsk, une grande ville. Il va recevoir en 1946 le prix Staline, une haute récompense pour ses travaux et ses publications. Et en 1946, il va être nommé évêque à Simferopol. Il revient dans sa Crimée natale, où il s'éteindra en 1961.
Il y a des allers-retours comme ça dans sa vie, entre le goulag et la vie scientifique. Tout à fait reconnu, parce qu'il a le prix Staline, vous dites. Alors, comment les deux se conjuguent?
Les deux se conjuguent finalement, je dirais peut-être, Gratt, on retrouve ça dans ce livre. Ce livre, L'esprit, l'âme et le corps, il en a l'idée très tôt, en 1922. Très très tôt, et parce qu'à cette époque-là, le bolchevisme développe l'athéisme et essaie de tuer la religion qui est l'opium du peuple. Vous le dites souvent dans vos émissions lorsque vous parlez de la Russie. Et lui fait vraiment une apologie, c'est-à-dire il essaie d'expliquer que la religion, finalement, ça se défend, et qu'il a des idées fortes pour défendre la religion, et que un scientifique a le droit de croire et de continuer son métier de scientifique. Et donc cette apologie nous donne finalement les raisons de continuer ce combat. Il refusera toujours d'abdiquer, je dirais, sa foi. Il refusera toujours aussi d'abdiquer son beau métier de médecin.
Alors, si vous voulez bien, on prend le livre, qui est un livre évidemment religieux, théologique aussi par moments, mais avec beaucoup de termes scientifiques, médicaux, que l'on ne connaît pas, et c'est là qu'on a besoin de quelqu'un de spécialiste pour expliquer ça. Alors, je lis un peu les titres des chapitres. Tour à tour, quelles conclusions peut-on tirer à partir de l'état actuel des sciences de la nature? 2. Le cœur, organe de la connaissance supérieure. 3. Le cerveau et l'esprit dans la nature. 4. L'esprit des plantes et des animaux. 5. L'âme des animaux et de l'homme. 6. L'esprit n'est pas inconditionnellement lié à l'âme et au corps. 7. Les facultés transcendantes de l'esprit. 8. L'homme intérieur. 9. L'immortalité. Et on finit par quelque chose de très théologique, évidemment. Alors, on peut pas voir tout ça ici maintenant, mais quand je vous ai demandé de relever quelques points comme ça pour présenter ce livre et pour appeler l'attention du lecteur en commençant, vous avez d'abord parlé de l'énergie spirituelle. Alors, qu'entendez-vous par là ?
Oui, dans ce livre, tout ce que vous avez dit est vraiment intéressant et passionnant. Ce sont les chapitres qu'il a lui-même écrits. Et cette notion d'énergie spirituelle apparaît dès le début du bouquin. Luc, je vais l'appeler ainsi, ou Saint-Luc, considère qu'il y a une sorte d'énergie. Et pour ça, il prend l'exemple de l'énergie électrique, qu'on a découvert simplement 3 siècles avant sa naissance, puis de l'énergie atomique qu'on a découverte alors à son époque. Et il émet le postulat qu'il existe sans doute une sorte d'énergie, une troisième énergie, peut-être une quatrième, une cinquième, qui ne sont pas encore découvertes, car on ne possède pas les outils pour les découvrir, comme on a eu les outils pour découvrir l'électricité et l'énergie atomique. Et dit, c'est cette énergie-là qui est l'énergie spirituelle. Et il a tout à fait raison, à notre époque, on parle beaucoup dans le domaine de la psychologie, dans le domaine des neurosciences, d'une force à l'intérieur de nous qu'on appelle la force agentive ou l'agentivité. Ça occupe beaucoup de publications en ce moment, modernes, dans les années 2020-2022. Et cette force, elle est déjà décrite, vous qui aimez bien la philosophie, par Spinoza, qui parle du conatus, c'est-à-dire la force d'exister d'un être qui est à l'intérieur. Il l'avait déjà cerné un petit peu, pas aussi bien, je trouve, que Saint-Luc, qui est allé encore plus loin parce qu'il était plus scientifique que Spinoza. Et si je demande à vos auditeurs d'imaginer qu'ils tiennent dans la main un citron acide qu'ils ont coupé en deux et qu'ils rapprochent ce citron acide de leur bouche et qu'ils imaginent qu'ils croquent ce citron acide, je pense que la plupart d'entre eux, lorsqu'ils l'imaginent, ils vont se mettre à saliver. Et c'est ça, cette force qui est à l'intérieur de nous, qui a entendu que de l'acidité allait attaquer notre corps et qui aussitôt se met à développer sa force pour nous protéger, car la salive est là pour nous protéger de l'acidité. Et cette expérience très très simple nous fait réfléchir, il parle d'expériences similaires justement, à la réalité de cette force au-delà des forces connues, électriques, électromagnétiques ou atomiques.
On va faire une pause en prière et en musique bien sûr pour aller en Crimée. C'est une hymne à la Mère de Dieu que chante le chœur du clergé du diocèse d'Odessa. Hymne à la Mère de Dieu par le chœur du clergé du diocèse d'Odessa. Nous revenons à notre entretien avec Jean Béquiot sur le livre de Saint-Luc de Crimée, L'Esprit, l'âme et le corps, un livre paru en traduction française récemment. Alors Jean Béquiot, je répète, vous êtes un grand spécialiste dans un certain domaine de la médecine. Donc vous êtes spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs. Vous êtes fondateur d'un des premiers enseignements universitaires d'hypnose. Vous enseignez les techniques d'activation de conscience à l'Université Paris-Orsay et vous présidez le Collège international des techniques d'activation de conscience. Alors, tout ceci est en rapport quand même avec le livre de Saint-Luc. C'est ce qui nous intéresse ici beaucoup. Alors, là, un commentaire sur le cœur, parce que nous savons par la théologie que, pour la théologie ascétique par exemple, le cœur est considéré comme le centre de tout.
J'ai été frappé par l'importance apportée par Saint-Luc à cette prééminence du cœur sur le cerveau, sur l'esprit, sur l'ensemble du corps. Il nous dit que le cœur n'est pas simplement le moteur central de la circulation sanguine, comme on le pense nous en médecine. Il est l'organe central de nos sentiments, l'organe majeur de la connaissance de la pensée, de l'appréhension des actions spirituelles. Il dit même, il établit la relation entre l'homme et Dieu. Il est l'organe de la connaissance supérieure. Alors, quand on lit ça, bien sûr, on se dit c'est un saint qui dit ça, c'est quelqu'un qui est très fortement formé en théologie, Et lorsqu'on se tourne vers l'actualité des neurosciences, on découvre que le cœur n'est pas simplement un muscle. Il y a dans le cœur des neurones très particulières, des cellules neuronales, qu'on appelle les neurones miroirs, les neurones canoniques, qui font que lorsqu'on prend une décision, par exemple, on pense que c'est notre esprit qui prend la décision. Pas du tout. Ceci a été prouvé depuis 1988 par une expérience célèbre. C'est le cœur qui réagit en premier, qui alerte les muscles. On passe à l'action et notre esprit dit « Ah, tu as bien fait d'entrer en action ». Ça, c'est l'actualité des neurosciences. Il faudrait plus de temps pour le développer. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce scientifique, car c'est un scientifique, a décrit ça dans les années 30-40 et que nous, on l'a découvert dans les années 80, 90 et 2000.
Donc, un livre à lire de plusieurs manières, je dirais, et des choses à retenir, même en plan scientifique. Alors, je voudrais un mot également sur l'intuition.
Oui, l'intuition est aussi au cœur de ce livre et il est intéressant que cet homme y ait pensé. Il s'est penché sur les philosophes, sur Pascal bien sûr, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas et donc une certaine rapidité dans la prise de décision qui va plus vite que l'action neuronale dans le cerveau. Il invoque aussi Schopenhauer qui oppose à la raison l'intuition et l'intuition est là aussi dans l'actualité. J'ai fait passer la semaine dernière, une thèse à un de mes élèves, le prénom c'est Alieg, un prénom russe, il est d'ailleurs d'origine russe aussi, thèse de médecine, de psychiatrie, et sa thèse était tout simplement sur l'utilisation de l'intuition chez les médecins lorsqu'ils prennent la décision de traiter de telle ou telle façon. Donc on est tout à fait là aussi dans l'actualité, jamais dans ma génération on aurait fait une thèse sur l'intuition, on aurait été blackboulé. Et maintenant, c'est plus qu'à la mode, c'est la modernité des neurosciences.
C'est passionnant. Les états modifiés de conscience, m'avez-vous dit, en préparant cette émission. Alors, un éclaircissement, s'il vous plaît.
Alors là, j'ai été stupéfait de lire dans ce livre cette phrase. S'il était possible de voir à travers une boîte crânienne et si les hémisphères pouvaient s'éclairer, il serait possible de voir une tache lumineuse changeant constamment de forme et de place, entourée par une ombre plus ou moins intense qui l'entoure. Eh bien, c'est la description actuel de ce qu'on voit dans le cerveau au niveau du cortex et aussi de l'intérieur du cerveau, des millions de lampes qui sont le couple entre des neurones et d'autres cellules qu'on appelle les astrocytes. C'est joli parce que astrocytes, c'est les astres qu'on a dans le ciel vers la spiritualité. Et ces lampes-là s'allument et s'éteignent, augmentent leur intensité ou la diminuent. Et selon ce que l'on observe, on peut dire que la personne souffre, qu'elle a une douleur, ou qu'elle est joyeuse, ou qu'elle est heureuse. Et donc, cette actualité qu'on a en IRM fonctionnel, elle était décrite de façon stupéfiante par cette phrase que je viens de vous lire, écrite il y a maintenant dans les années 30 ou 40.
Alors, il y a de très belles pages dans ce livre, en particulier sur la beauté.
Oui, j'ai été surpris. Je m'attendais à voir d'abord un bouquin de théologie. Et la théologie n'est pas lourde du tout. Elle est légère, elle est accessible à tout le monde, même à des personnes qui ne connaissent pas la théologie. La science, c'est un peu mon domaine. Elle est très fluide. C'est un excellent pédagogue. D'ailleurs, pendant tout le temps où il était au Goulag, il a continué à enseigner dans les petits villages du Goulag où il était, enseigner les notions de médecine à des paysans ou à des jeunes fils de paysans pour essayer de les éduquer et de les mettre sur la voie de la médecine. Donc, c'était un excellent pédagogue. Et il y a alors des pages qui sont vraiment des pages poétiques, qui sont des hymnes à la beauté. Moi, j'ai noté, par exemple, la page 77 et 78, qui sont un hymne à la beauté, où il nous décrit les beautés des fleurs, de la nature, et il termine en disant « Il faut avoir un cœur bien endurci pour ne pas entendre cette voix divine qui résonne dans la beauté des formes matérielles de la nature avec tant de limpidité. Il est naturel que les femmes, tout particulièrement, aiment les fleurs et cela fait honneur à leur cœur. » Et je trouve que cette phrase peut être une phrase de conclusion de ce bouquin et de tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
Tout à fait. Alors pour terminer quand même, je voudrais votre sentiment d'enseignant, puisque vous êtes vous-même professeur, vous enseignez la médecine. Donc, est-ce que vous pensez que ce livre peut avoir un intérêt pour un étudiant ou pour qui s'intéresse à ce genre de questions? Ou c'est en dehors de la science quand même?
Tout à fait. Maintenant, nous vivons une époque merveilleuse. Moi, c'était l'époque de la laïcité. Il ne fallait surtout pas parler de spiritualité à nos patients. Heureusement, j'ai découvert les soins palliatifs qui m'ont montré que si on privait un patient croyant de l'apport de la spiritualité dans la dernière partie de sa vie, c'était une sorte de crime finalement. Et maintenant, tous mes élèves, dans tous les endroits où j'enseigne, j'enseigne, que ce soit en France ou en Russie, où j'ai la chance d'enseigner aussi, ou en Ukraine, je leur recommande ce bouquin. Et je me rends compte qu'en Russie et en Ukraine, ce bouquin est très connu de mes élèves. En France, j'essaie de le populariser et j'ai des retours très favorables de mes élèves qui y trouvent un enseignement à la fois intellectuel, scientifique et aussi psychologique et théologique.
Alors, juste en 30 secondes, un livre que j'ai dans les mains, que vous avez fait publier en 2021, donc l'année dernière, « Du nouveau dans l'hypnose ». Alors là, ça n'a plus rien à voir avec Luc de Simferopol, mais ça a à voir avec votre science et votre enseignement. « Les techniques d'activation de conscience ».
Alors, ça a un peu à voir avec Saint-Luc, puisqu'il parle de l'hypnose. Car à l'époque, l'hypnose était pratiquée en Russie, en particulier par Pavlov, le grand médecin des chiens conditionnés et conditionnels. Et ils étaient très en avance sur nous. Ils avaient déjà une vision critique de l'hypnose. Et moi, cette vision critique, je la développe dans ce livre. C'est pour ça que j'ai mis « Du nouveau dans l'hypnose ». Car maintenant, justement, on va dans le sens de Saint-Luc, dans le sens de ces lampes qu'on allume dans le cerveau, et les patients qui souffrent, leurs lampes sont à moitié éteintes. Allumons ces lampes et connaîtrons cet état de transe active, de transe vraiment constructrice, qui leur permettra de ressentir la joie, le bonheur et de réussir les actions qu'ils entreprennent.
Jean Becchio, merci. Je rappelle que vous êtes médecin spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs. Et puis évidemment, les coordonnées du livre présenté de Saint-Luc de Crimée, « L'esprit, l'âme et le corps », un essai donc des années 45-47, traduit du russe et annoté par David Denkoff, préface par l'archiprêtre Jean Breck, et puis l'avant-propos, c'est vous-même qui l'avez écrit. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Philippe Mercher. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant, par Jean-Luc Gadreau.